Bien, à présent, si vous avez d'autres questions à poser, profitez-en, oui.
Pardon. Mais c'est juste que j'ai pas compris comment ça se fait que le périhélie et l'aphélie, ça tombe le 4 janvier et le 4 juillet, je crois.
Oui.
Ça tombe pas en même temps que les équinoxes, c'est bizarre,
Il n'y a aucune
ça.
raison.
Pardon.
Non, non, il n'y a aucune raison que vous ayez. La ligne des équinoxes, c'est l'intersection de deux plans. La ligne des équinoxes, c'est le plan de votre écliptique, et puis vous avez le plan de l'équateur terrestre. Bon, ces deux plans, ils se coupent suivant une droite. Cette droite, ça s'appelle la droite des équinoxes. Bon, il n'y a aucune raison que la droite des équinoxes soit confondue avec celle des. Non, non, il n'y a aucune raison. Alors, ça arrive par moment, puisque votre droite des équinoxes, votre pôle, il fait un cône, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, en 26 000 ans. C'est-à-dire qu'il avance en gros de 50 minutes par an. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Votre ligne des apsides, c'est-à-dire votre grand axe de l'orbite de la Terre, elle aussi, il y a une avance du périhélie. Ça va tout doucement, c'est 11 secondes par an, à peu près. Donc, à une certaine époque, dans le passé, il y a correspondance entre les deux. Mais en réalité, la ligne des équinoxes et la ligne des absides, le grand axe, sont confondus tous les 21 000 ans, à peu près. Hein? Le fait que les deux tournent. Hein? Donc, à un instant donné, statistiquement, bon, ça arrive une fois tous les 21 000 ans que vous ayez les deux lignes confondues. C'est deux phénomènes différents, hein, complètement différents. Hein. Dans un cas, vous avez un phénomène qui est la précession des équinoxes qui est lié au mouvement de toupie, enfin de précession de l'axe de la Terre. Hein. Donc comme la Terre, l'axe précesse comme ça, ben, l'intersection qui est l'intersection du plan de l'écliptique avec l'équateur, ben, votre équateur y tourne aussi, donc la droite qui est l'intersection des deux se met à tourner aussi. Hein. Il n'y a aucune raison, a priori, que... Alors justement, votre fameuse droite des équinoxes, Si ça remonte, je vais vous le montrer tout de suite. Diaporama affichage. Voilà. Un peu long parce que. Là, j'ai plus de place. Enfin bon. Là, c'est le plan. Je voudrais remonter dans mon diaporama, mais il ne veut pas. Ah, si, ça y est. Au début. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Parce qu'en réalité, je vous ai caché plein de choses. Ouais, alors c'est où? Là. J'avance. Voilà, le mouvement de la Terre, c'est ça. Voilà. Bien. Vous voyez qu'ici, la ligne des absides, elle est ici. C'est le 4 janvier. Ici, vous avez votre ligne des équinoxes, qui est comme ça. Vous avez la ligne perpendiculaire à la ligne des équinoxes, ça s'appelle la ligne des solstices. Donc le 4 janvier, la Terre passe à son périhélie. Donc c'est le moment où la Terre est le plus près du Soleil. Le temps que met la Terre à passer du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, c'est l'hiver. Ben, vous voyez qu'ici, il y a le périhélie qui est ici, donc la Terre va plus vite. Donc l'hiver est plus court, c'est la saison la plus courte. Inversement, ici, pour aller du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, c'est l'été. La période d'été, le 4 juillet, comprend l'aphélie, et à ce moment-là, la Terre va plus doucement. C'est pour ça que la période la saison la plus longue, ça va être l'été. Et vous avez plusieurs jours de décalage. Trois jours. Du soleil, il fait plus chaud. Oui. Alors, ce qui chauffe sur la Terre, c'est pas la distance du Soleil, c'est la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. Hein. Oui, c'est le, d'ailleurs, ça montre bien que ce n'est pas la distance de la Terre qui joue, parce que si c'était la distance de la Terre qui jouait, il devrait faire plus chaud le 4 janvier. Alors ça, je pense que vous êtes tous convaincus qu'il fait plus beau le 4 juillet, enfin plus chaud tout au moins le 4 juillet que le 4 janvier. Mais ça tourne tout ça. Hein. Donc quand vous regardez les textes anciens des Grecs, eh bien, à l'époque d'Hipparque, par exemple, eh bien, l'axe des absides, enfin c'est surtout l'équinoxe était beaucoup plus par là, et la saison la plus courte, c'était l'automne. Et c'est ce qui a fait abandonner les systèmes. Les Grecs, eux, ils expliquaient tout par des cercles et des vitesses uniformes. Eh bien, évidemment, si vous mettez une vitesse uniforme, bon alors, on transpose Soleil et Terre, mais si vous faites tourner le Soleil autour de la Terre d'une vitesse uniforme, ben vos quatre saisons devraient avoir la même longueur. Et comme les saisons n'avaient pas la même longueur, il fallait trouver autre chose. Et les Grecs ont eu l'idée de garder un mouvement uniforme, mais au lieu de mettre la Terre au centre du cercle, ils l'ont excentré, ce qu'on appelle un excentrique. Et dans ce cas-là, ben la vitesse n'est plus uniforme. Mais ils trichent, parce qu'ils ne mettent plus la Terre au centre du monde. Hein ? Ça s'appelle sauver les phénomènes chez les Grecs. Et ça, c'était des grands spécialistes, les Grecs, ils ont triché sans arrêt, mais ils ont gardé en permanence des combinaisons de mouvements uniformes. Après, ils ont inventé un autre truc qui s'appelle l'écan, qui était encore pire, parce qu'il faisait tourner le cercle d'un mouvement uniforme par rapport à un point qui n'était plus le centre du cercle, mais enfin bon, ça marchait. Il y a des périodes. Il y a des périodes où c'est plus ou moins propice de voir plus d'éclipses en des régions données. Par exemple, il y a une période grecque où il y a eu plus d'éclipses qu'à une autre. Mais statistiquement, sur une grande période de temps, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous pouvez, quand vous regardez les cartes de visibilité, vous pouvez avoir deux éclipses. Par exemple, en Chine, là, vous avez une éclipse l'année dernière, vous en avez une éclipse cette année. Donc à un an d'intervalle, vous allez avoir deux éclipses totales. En Angola, c'était pareil. Le problème, ce n'était pas la même saison, alors ce n'est pas forcément bon pour les astronomes. Mais la plus grande difficulté pour les astronomes, c'est de trouver un désert et une époque où il fait beau. Parce que vous pouvez avoir un désert, mais s'il y a de la tempête, enfin des tempêtes de sable ou des choses comme ça, c'est pas forcément gagné. Hein. Souvent, les astronomes, la dernière éclipse, j'ai des collègues qui ont été en Sibérie. Bon, bah, ils sont partis une semaine avant, ils sont restés une semaine là-bas. Et puis, au moment de l'éclipse, bah, y avait des nuages, ils n'ont rien vu. Hein, alors, heureusement, leur matériel n'est pas très, très important parce que observer le soleil, il y a toujours suffisamment de lumière. Hein, ça ne pose pas de problème. On n'a pas besoin de gros télescopes. Hein, mais ils avaient fait plein de manips et ça a échoué. Et c'est courant. Hein, l'astronome qui se déplace pour observer un phénomène, mon collègue là, qui avait été observé des occultations d'une étoile par Titan en Afrique du Sud et tout, bah c'est pareil. Il était en plein désert en Afrique du Sud. Et bah au moment de l'occultation, bah, il y avait des nuages. Jean-Eudes, l'autre jour, il a dû parler de Guillaume le Gentil de la Galésière, qui est resté 8 ans aux Indes pour voir les passages de Vénus. Il a raté le premier parce qu'il était en pleine mer, parce que on était en guerre contre les Anglais. Le deuxième, il était là, il faisait beau, puis juste au moment du passage, il y a eu un nuage et il ne l'a pas vu. Mouchez, lui, il a eu une chance absolument incroyable. Hein, il était sur l'île Saint-Paul. Hein, et lui, il était dans un endroit où il a fait un temps pourri sans arrêt. Il y avait des tempêtes incroyables. Son bateau, les amarres ont rompu par trois fois, etc. Et il a fait beau que pendant les 4 heures du passage de Vénus.
Dans 100 ans, dans 1000 ans, est-ce qu'on peut prévoir sur une période encore plus longue? Et lorsqu'on prévoit 1000 ans, quelle est la précision de cette prédiction? Est-ce qu'on est précis à la seconde, à la minute, à l'heure près ou au jour près?
Quand on fait une prédiction à long terme, l'erreur provient toujours du ralentissement de la Terre. En réalité, la Terre ralentit. Donc, dans les éphémérides, il y a un paramètre qui s'appelle le temps. Ce temps, par définition, c'est un temps uniforme. Bon. La Terre, elle, elle tourne, mais elle ralentit. Mais le ralentissement de la Terre, que ce soit vers le futur ou vers le passé, est difficilement modélisable. Alors, vers le passé, on peut y avoir accès grâce aux éclipses, justement, parce qu'on regarde la différence de position de ligne de centralité pour des éclipses observées. Dans le futur, on ne sait pas trop le modéliser. Vous savez, c'est la petite seconde qu'on rajoute de temps en temps le 1er janvier. Normalement, on devrait en rajouter quasiment tous les ans, mais on a été pendant 5-6 ans, on n'a rien rajouté. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas bien modéliser. Hein. Alors le ralentissement de la Terre, il est dû à... dans les théories de la Lune, il y a deux termes. Il y a un terme qu'on appelle l'accélération séculaire de la Lune liée au terme de marée. Alors ça, c'est quelque chose qui est lié aux marées terrestres et qui fait que la Lune ralentit sur son orbite et s'éloigne. Donc ce terme, ce coefficient d'accélération séculaire, évidemment, il va positionner sur des grandes périodes de temps la position de la Lune. Ça va faire des petites variations. Et puis, il y a le ralentissement de la Terre qui fait que votre Terre, les continents qui sont sous l'ombre, eh bien, ils dépendent de la position de la Terre. Ça dépend de la rotation de la Terre. Donc, par le passé, on ajustait avec les éclipses anciennes à la fois l'accélération, enfin, ce n'est pas une accélération, c'est la décélération en réalité séculaire de la Lune, et l'écart entre cette échelle de temps uniforme qu'on appelle en astronomie le temps terrestre et l'échelle de temps non uniforme qu'on appelle le temps universel, on ajustait ces deux choses avec les éclipses anciennes. Or, ces deux choses étaient un petit peu et sont corrélées, en fin de compte. Alors, depuis qu'on est capable de faire des tirs laser sur la Lune, on est capable de mesurer l'éloignement de la Lune. C'est de l'ordre de 3,8 cm par an. Et connaissant cet éloignement de la Lune, lui, il est lié à la décélération séculaire de la Lune. Donc, avec les tirs laser, on est capable de calculer la décélération séculaire de la Lune. Et le ralentissement de la Terre, maintenant, il est uniquement calculé à l'aide des éclipses anciennes. Alors le problème, c'est que dans le futur, si on fait abstraction de connaître le continent, enfin la partie de la Terre qui va être dans l'ombre de la Lune, la date en temps uniforme va être très précise, elle est quasiment de la même précision qu'à l'heure actuelle, ça va être de l'ordre de la seconde, même en dessous. Hein? Tout ça parce que les éphémérides de la Lune sont particulièrement précises. Hein? Les éclipses de la Lune, les éphémérides de la Lune, c'est très bon sur 6000 ans à peu près. Hein? Et puis le Soleil aussi, donc c'est des théories qui sont très, très stables. Si vous comparez les différences d'éphémérides américaines, françaises, etc., vous avez des différences qui sont très, très petites entre les autres. Ce qui prouve qu'on fait des choses de manière totalement différente et on arrive au même résultat. Ça prouve que quelque part, c'est bon. Ou qu'on commet tous les deux les mêmes erreurs. Mais enfin, en général, c'est c'est pas le cas parce que quand on se trompe, ça marche mal très rapidement. Donc on est capable de prédire avec une relativement bonne précision en temps uniforme. À partir du moment où on veut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est beaucoup plus délicat. Alors dans le passé, quand les historiens nous demandent les éclipses qui passent sur telle ou telle ville 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien il faut toujours préciser qu'il y a une incertitude, qui est l'incertitude qui est liée au ralentissement de la Terre. Et si vous prenez quand on fabrique des grandes séries d'éclipses, moi j'ai fait des canons d'éclipses sur 6000 ans, si vous regardez les canons d'éclipses qui ont été fabriqués au début du 20e siècle, eh bien vous allez, à l'époque on connaissait mal le ralentissement de la Terre et les éclipses sont fausses. Donc au fur et à mesure qu'on connaît mieux le ralentissement terrestre, ça se fait. Alors c'est un petit peu un jeu de va-et-vient, puisque plus on découvre des sources historiques qui nous donnent une éclipse certaine en un lieu connu, à une date connue, à chaque fois, on a une information importante. Et inversement, quand on commence à bien connaître le ralentissement de la Terre, on est capable de prédire des éclipses en des lieux donnés, sur des périodes très importantes.
Dans vos calculs historiques, est-ce que vous tenez compte de la dérive des continents ?
Non. Parce que sur l'incertitude, en réalité, quand vous regardez cette... alors, il faut que je regarde la dernière, c'était celle-ci. Quand vous regardez cette courbe-là, vous voyez bien que si, par exemple, j'utilise j'utilise cette éclipse pour calculer la différence de temps. Vous voyez qu'ici, mon incertitude sur le temps, ben, ça va être le temps que la Terre tourne de cette valeur-là, quasiment. Hein? Donc vous voyez que cette incertitude sur cette bande-là, elle est, je dirais, 10 000 fois supérieure à la dérive des continents. Donc on n'en a pas besoin. On ne remonte pas 100 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. D'abord, parce qu'il faut remonter jusqu'aux périodes historiques, je dirais, où on a des documents écrits. Donc, en général, quand vous remontez 3000 ans avant Jésus, les éclipses les plus vieilles de soleil que l'on a, ça doit être moins 700, je crois, avant Jésus. C'est les éclipses chinoises. Je pense que c'est moins 700, ou c'est cet ordre-là. Donc, en dessous, ce n'est pas la peine d'aller. Bon, on peut le faire, hein, c'est amusant, parce qu'après, on fait des séries d'éclipses, des séries de Saros et tout, mais... Bon, aussitôt qu'on quitte la période historique... Alors, il y a les éclipses. Quand vous avez une éclipse mixte, avec une bande de centralité très fine, alors si vous avez la chance d'avoir un lieu... La plupart du temps, le problème, c'est que les gens, dans l'Antiquité, ils disaient qu'ils avaient observé, mais ils ne précisaient pas toujours le lieu. C'est l'ambiguïté qui est là. Et puis, des fois, on connaît le lieu, mais c'est dans un calendrier dont on n'est pas tout à fait sûr de la date. Parce qu'on n'a pas de correspondance avec un autre calendrier. Donc, mais ça sert énormément. Hein. Par exemple, la date de la mort d'Hérode, on ne sait pas quand Hérode est mort, mais on sait que l'année où il est mort, il y a une éclipse totale de lune qui était visible depuis Jérusalem. Donc quand on regarde toutes les éclipses de lune au voisinage de l'an 4 avant Jésus-Christ, eh bien, on est certain qu'Hérode est mort dans l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc ça permet de fixer certaines dates comme ça. Alors il faut se méfier aussi, hein, il y a des gens qui inventent des fausses éclipses. Oui. Où est-ce que c'est que j'ai ça? Voilà. C'est ici, ça c'est des éclipses anciennes. Hein. Vous voyez ici, c'est un historien byzantin qui s'appelle Zosine, au 5e siècle, au début du 6e siècle, dans son histoire naturelle à propos de la bataille qui eut lieu le 5 septembre 394 dans les Alpes juliennes entre Gênes, etc. Zosine écrit « Lorsque Gênes marcha à leur rencontre avec l'ensemble de ses troupes et que les armées en vinrent aux mains l'une avec l'autre, il se produisit au moment même du combat une éclipse de soleil si complète qu'il sembla plutôt faire nuit que jour pendant un laps de temps considérable. » Or ça, il l'a inventé complètement, hein, parce que ce jour-là, on connaît cette date, il n'y a jamais eu d'éclipse. Hein, donc il explique sa défaite en disant, il y a eu une éclipse, on a perdu nos moyens. Il n'y a jamais eu d'éclipse le 5 septembre 394. Hein, là aussi, c'est connu, c'est quelque chose qui est assez connu. Hein, on ne connaissait pas l'année de la mort de l'empereur d'Occident, Louis Ier le Pieux, c'était le fils de Charlemagne. Hein, grâce à une chronique médiévale, on sait que l'année où l'empereur mourut, il y eut une éclipse de soleil le mercredi avant l'ascension. Le calcul montre qu'une éclipse totale de soleil fut visible en Europe le 5 mai 840, veille de l'ascension. Donc l'empereur est mort en 840. Donc vous voyez, les éclipses, ça sert aux historiens aussi. Hein. Et ça sert surtout à fixer les chronologies. Hein, on a des chronologies, par exemple, babyloniennes, enfin assyriennes, où il y avait ce qu'on appelle à l'époque des années éponymes. C'est-à-dire qu'on donnait à l'année un événement ou le nom d'un gouverneur ou d'un empereur. Et on a des cycles, on a une série d'à peu près 150 à 200 années. Donc c'est une très grande période de temps. Et dans ces années, il y a une année qui s'appelle l'année de la grande éclipse. Alors, en cherchant toutes les éclipses, ça c'est sur la ville de Marie, en cherchant toutes les éclipses qui ont eu lieu sur cette ville-là, on essaie de recaler toute cette chronologie par rapport à l'histoire. Alors, ce n'est pas le seul élément qu'on utilise. On utilise tous les éléments, évidemment, de l'archéologie, qui sont le carbone 14, la dendrochronologie ou des choses comme ça. Mais de temps en temps, ça donne un élément supplémentaire et ça permet parfois de se tirer d'affaire, mais ce n'est pas évident du tout. C'est les marées. Alors, c'est assez compliqué. C'est que la Terre n'est pas indéformable. Hein, donc, il y a une déformation. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de marée sur la Lune. C'est-à-dire que la Lune va être déformée et va y avoir un bourrelet. La conséquence de ce bourrelet fait que la Lune a une orbite qu'on appelle synchrone avec la Terre. Terre, c'est-à-dire que la Lune présente toujours sa même face à la Terre. Et le bourrelet est toujours face à nous. Bon, inversement, sur la Terre, il y a un phénomène de marée océanique, mais il y a aussi un phénomène de marée terrestre. On ne le sent pas, mais deux fois par jour, on monte de 50 cm et on descend de 50 cm. Hein ? Eh bien, ce bourrelet, il est un petit peu en avance par rapport au passage au méridien de la Lune. Donc la Lune attire sur ce bourrelet pour le ralentir. Alors l'action qui se fait, c'est que la Terre ralentit, et elle va ralentir, et la Lune va s'éloigner en même temps, et elle va ralentir jusqu'à ce que la Terre, enfin, elle devrait ralentir, jusqu'à ce que la Terre soit synchrone avec la Lune. C'est-à-dire jusqu'au moment où la Lune sera très loin, donc elle fera une révolution beaucoup plus longue pour faire le tour de la Terre, et en même temps, ben, la Terre va énormément ralentir. Et au moment où le jour sur la Terre sera égal au ralentissement, à la révolution de la Lune, c'est-à-dire à ce moment-là, la Terre présentera toujours sa même face à la Lune, et à ce moment-là, la Terre sera synchrone par rapport à la Lune. Alors ça, c'est théorique, ça marcherait s'il y avait que la Terre et la Lune. En réalité, il y a le Soleil. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'atteindra jamais cette situation. Avant, il y aura des perturbations solaires qui feront que la Lune va revenir vers la Terre. Mais c'est ce phénomène-là. Donc on a un ralentissement de la Terre. Alors, on ne sait pas trop à quel niveau ça a lieu. Ça a lieu aussi au niveau des océans, au frottement des océans. On ne sait pas tout à fait à quel endroit ça a lieu, parce qu'il y a des phénomènes de dissipation. C'est quelque chose qui est assez compliqué, mais c'est quelque chose qu'on mesure. On est certain que ça ralentit, en tout cas. Mais l'étude des marées, même dans le système solaire, c'est quelque chose qui est particulièrement complexe. Il faut observer ça sur des très grandes périodes de temps. Mais vous avez ce phénomène partout. Hein, les satellites de Jupiter, il y a des phénomènes de marée importants. Ce qui fabrique les volcans sur Io, eh bien, c'est simplement que Io est près de Jupiter, il y a un effet de marée très important, et puis que la croûte se fissure et que ça fait des volcans. Donc l'effet des volcans sur Io, c'est dû aux marées solides, je dirais. Hein, et ça a toujours lieu. Hein, ça, c'est à partir du moment où vous avez un corps qui n'est pas rigide, ben, vous avez une déformation du corps qui est sous les forces de marée. C'est quelque chose qui est différentiel. Donc ça s'allonge des deux côtés. Vous avez un bourrelet des deux côtés. Et pour la Lune, ça... Alors, la plupart des satellites sont synchrones, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils présentent toujours leur même face à la planète. C'est le cas pour Mercure autour du Soleil, par exemple. Ça varie pratiquement jamais. Alors la Lune, on en voit un petit peu plus. Parce que comme la vitesse orbitale de la Lune n'est pas constante, il y a des moments où elle va un petit peu plus vite, donc on voit un petit peu plus à l'ouest. Puis des moments où elle va un petit peu plus lentement, donc on voit un petit peu plus à l'est. Et puis de temps en temps, comme la Terre, ben sur la Terre, on a une parallaxe qui est quasiment d'un degré, de temps en temps, on voit un petit peu plus le nord. Puis de temps en temps, on voit un petit peu plus le sud. Ce qui fait qu'on connaît plus de 50% de la surface lunaire, ce qu'on appelle la libration de la Lune. Mais tout ça, on en tient compte, hein, puisque en réalité, quand on fait des prédictions très précises, on ne se contente pas de prendre un diamètre moyen. Où est-ce qu'il est mon... Voilà. Quand on fait des prédictions très précises, eh bien, on tient compte de la forme du limbe. Hein. On fait un premier calcul avec un diamètre moyen, puis après, on calcule les points de contact. Alors, pour calculer les points de contact, on calcule à quel endroit le dernier contact ou le premier contact avec l'ombre, avec la Lune et le disque solaire va avoir lieu. Et puis on regarde s'il y a un petit trou. Hein. Ben, s'il y a un petit trou, ça fait un décalage de temps. Alors là, c'est augmenté par 10, hein, c'est un facteur 10. Elle n'est pas si perturbée que ça, la Lune, mais c'est décalé d'un facteur 10. Donc vous voyez, en fonction, on fait des prédictions générales avec un rayon moyen de la Lune, et puis après, quand on veut un calcul beaucoup plus précis, bah, on regarde à l'endroit où on est, on regarde la libration de la Lune topocentrique, donc à l'endroit où on est, puis en fonction de la libration de la Lune, on regarde les contacts, et puis en fonction des contacts, on regarde le décalage qu'il va y avoir dans l'instant du contact. Donc on arrive à des précisions beaucoup plus importantes. Mais ça on le fait, on ne le fait pas d'une manière automatique sur ordinateur, on le fait au cas par cas pour les observateurs qui en ont vraiment besoin. La plupart du temps, les gens vont voir une éclipse, ils ne veulent pas savoir au dixième de seconde près quand est-ce que ça commence. Ils veulent savoir à peu près où il faut aller pour que ça dure le plus longtemps possible, où il va faire beau, et puis l'endroit où a lieu le contact, en fin de compte. Ça leur suffit. Bon, puis après, si c'est décalé d'une seconde, ce n'est pas une catastrophe. De toute façon, ils filment longtemps avant et puis longtemps après.
Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, si j'ai bien compris, cette année en Poitiers, même les années suivantes, il n'y a pas trop de chance.
Bah oui, il faut attendre 2051.
Voilà. Bon, bah on essaiera d'attendre. On se déplacera, voilà.
Non, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous payer des beaux voyages. Non, mais il y a des gens qui sont des chasseurs d'éclipses qui vont partout. Hein. L'éclipse que je vous ai montré qui avait lieu au pôle, là, je connais la personne qui a fait les photos. Il a été faire la dernière éclipse en février l'année dernière en Antarctique. Il est monté en haut du plus haut sommet en Antarctique, qui est quand même à plus de 4000 ou pas loin de 5000 mètres, hein, par moins 60, pour faire sa photo. Hein, c'est... Au début, il voulait emmener des gens. En général, quand il y a eu une éclipse, c'était en Syrie, il avait fait un grand camp en Syrie, il avait amené, bon, il vit de ça en réalité, hein. Donc il avait emmené plein de monde et observé l'éclipse. Il avait voulu faire la même chose en Antarctique et il s'est aperçu que les conditions de vie en Antarctique étaient telles que même dans la base russe, il n'a pas pu emmener des gens, c'était trop risqué. Parce que le cargo qui allait là-bas, il y a un moment, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire une fois qu'il est parti, il n'a plus assez de carburant pour revenir. Et puis en Antarctique, la base russe où il était, il a fait 800 km. En chenillette pour aller jusqu'au pied de la montagne. Puis là, après, il a fallu qu'il monte au sommet de la montagne. Alors là, il nous a raconté, il a eu une tempête avec moins 60, moins 65, hein, pendant plus de 24 heures, enfermé dans sa petite toile. Bon, ils étaient deux, c'est du sport de très, très haut niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits merveilleux pour faire des éclipses. Mais il faut aller dans les déserts. Hein. Il y a le désert de Gobi ou des choses comme ça. Mais de plus en plus, il y a lui, il organise à chaque fois bon, quand c'est pas trop complexe et pas trop physique, il organise des expéditions qui sont ouvertes au public. Alors, ça coûte un petit peu cher, évidemment, mais c'est un spectacle vraiment inoubliable. Et je trouve que c'est l'occasion, en plus, de visiter un pays. Hein. Là, pour la Chine, il va y avoir encore plein de voyages en Chine. Hein. Vous allez avoir l'île de Pâques.
En 2009.
C'est en 2010, 2011.
De Pâques, ouais, c'est pas passé.
Non, si, l'île de Pâques s'est passé, mais il va y avoir la Polynésie, c'est en 2010. Vous pouvez aller en bateau aussi. Hein, quand il y a eu l'éclipse qui était en plein milieu de la Méditerranée, ben, il y a des gens qui avaient des croisières où le bateau s'arrêtait en pleine mer et puis vous regardiez l'éclipse. Ou vous louez un bateau puis vous allez sur place.
Je suis prêt à accompagner.
J'ai des collègues qui ont fait ça, hein, qui aiment bien naviguer. Ils ont été jusqu'à Athènes, ils ont loué un bateau à Athènes et puis ils se sont arrêtés en plein milieu de la ligne de centralité pour observer l'éclipse.
Bien. Donc d'ici là, d'ici
2051.
Donc on aura deux autres rendez-vous. Il y en aura un demain à l'université de Poitiers. Donc par contre, c'est l'après-midi, c'est à 14h15. Ce sera une intervention sur la perception de l'univers de Galilée jusqu'à Einstein. Donc ce sera l'après-midi. Et ensuite, dans 15 jours, le 17 février, il y aura Jean-Eudes Arlot, qui était venu la semaine dernière, qui viendra nous parler du cas de Pluton, pourquoi en 2006, elle n'est plus considérée comme une planète. Voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt. Merci.